Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pour l'instant le directeur du Collège supérieur. Le Collège supérieur est une maison où on cultive dans un esprit de liberté la philosophie afin de servir la cité en l'interrogeant sur ses pratiques et en s'efforçant de l'aider à renouveler le sens de ce que nous vivons ensemble dans une cité. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'avoir l'honneur d'accueillir ce soir François-Xavier Bellamy, dont il était naturel que le Collège supérieur l'invite. D'abord parce que c'est un philosophe et que nous ne doutons pas que la philosophie est un des plus beaux chemins pour la vérité et la construction de la personne. C'est un philosophe d'inspiration chrétienne, parce que l'exercice de la raison ne se clôt pas, ne s'interdit pas l'écoute de ce qui la précède. C'est un philosophe qui est un pédagogue, qui aime son enseignement, c'est ce dont il témoigne à travers ses écrits. Et c'est un philosophe qui, comme nous nous efforçons aussi de le pratiquer au Collège supérieur, ne cultive pas une langue ésotérique prétendue de spécialiste, mais la philosophie parle comme vous et moi, et comme Socrate ou Alain et d'autres. Et l'ouvrage Les Déshérités qui a fait connaître François-Xavier Bellamy dans le grand public est un ouvrage écrit d'une plume claire et alerte et élégante. Donc on ne peut que se réjouir d'ouvrir un tel livre. Dans Les Déshérités, François-Xavier Bellamy nous replace devant ce paradoxe qui, je crois, a déjà été énoncé ce matin, devant lequel se trouve le professeur et devant lequel se trouve l'école, d'avoir la mission apparemment contradictoire, d'avoir à transmettre et à développer l'esprit critique. Dans une histoire de la philosophie qui est parcourue à grands pas, mais avec un souci de vérité, François-Xavier Bellamy montre comment ce paradoxe de la transmission et de l'esprit critique a pu entraîner dans l'histoire particulièrement de l'université et de l'école française un certain nombre de malentendus dont nous sommes les héritiers déshérités. Et donc il est heureux que sa conférence vienne couronner une journée de réflexion qui, je crois, a été féconde. Et à l'issue de sa conférence, nous aurons un temps d'échange, le tout se terminant avant 20 h pour rassurer les inquiets.
Merci infiniment pour votre accueil. C'est surtout un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous pour conclure cette journée qui, je crois, a été très féconde d'après les échos que j'en ai. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous car j'étais à Grenoble ce matin pour une autre conférence. Mais c'est vraiment une grande joie d'être là ce soir et aussi un grand honneur de pouvoir partager cette expérience proposée par le Collège supérieur dont j'ai tant entendu parler et de pouvoir rencontrer pour la première fois le professeur Dumont dont j'ai également tant entendu parler, y compris par certains de mes élèves qui étaient passés par son enseignement et que je n'ai pu que décevoir, j'espère, le moins mal possible après l'expérience merveilleuse qu'il leur avait permis de faire de la philosophie. Car la philosophie, disait le professeur Dumont, et la philosophie s'adresse à tous. Je répugne toujours au fait d'être présenté comme philosophe. Je crois que nous sommes tous philosophes ici, dans la mesure où nous cherchons ensemble la vérité. La philosophie n'est, comme vous le disiez, pas une affaire de spécialistes. Elle parle comme vous et moi, tout simplement parce que vous et moi parlons la recherche de la vérité dès lors que nous tentons de nous la donner comme objet, de façon sincère et sérieuse. Et je crois que c'était l'objet de votre rencontre d'aujourd'hui sur la question de l'école, dans un monde qui, il faut bien le dire, ne se préoccupe pas souvent de la vérité dès lors qu'il est question d'école, mais plutôt de défendre des convictions, de défendre des opinions, de défendre des systèmes et des idéologies, quand bien même elles feraient la preuve de leur inefficacité. Et je crois que nous avons ensemble, si nous voulons servir l'école, d'abord à garder un très grand souci de vérité, quelles que soient nos positions personnelles sur la question de l'éducation, des méthodes pédagogiques, des méthodes d'enseignement. Et c'est ainsi que d'ailleurs nous servirons en philosophe la cause de l'éducation. Alors, la question qui était posée ce soir pour cette conférence vespérale est la question suivante: où va l'école? Question en apparence anodine, mais qui me paraît singulièrement intéressante dans la mesure où elle engage l'école dans un mouvement dynamique, dans une forme de transition, dans un itinéraire. Tout à l'heure, vous parliez de la philosophie comme d'un chemin. Eh bien, on pourrait affirmer que l'école elle-même est en chemin et on se demande où elle va. On se le demande et la question nécessairement implique dans sa formulation une pointe d'inquiétude. Où va l'école, sous-entendu, dans quel endroit terrible est-elle en train de se précipiter? Dans quel nouveau traquenard est-on en train de tomber? À la question de savoir où va l'école, c'est la question que l'on se pose avec inquiétude lorsqu'on se demande où on va. Mais enfin, où on va? Où on va, c'est la question qu'on se pose quand vraiment ça ne va pas du tout. Bref, tout ne va pas très bien et par voie de conséquence, on ne sait même pas très bien où ça va nous conduire, où ça va nous mener. Et on le voit, le débat contemporain autour des questions éducatives est marqué par une gigantesque confusion qui fait que, de façon tout à fait paradoxale, tout à fait étonnante, l'école est sans doute l'institution qui a connu le plus grand nombre de réformes dans les 30 dernières années. Il n'est pas un ministre qui n'ait pas produit sa grande réforme de l'école, sa refondation de l'école, sa reconstruction de l'école, sa reconstruction tantôt du collège, tantôt du lycée, tantôt de l'enseignement primaire, bref. Aucun ministre n'a tenté de révolutionner l'école et pourtant nous ne savons toujours pas où elle va et nous avons du mal à trouver le chemin que les politiques proposent pour l'éducation. Et on l'a vu encore récemment dans ce mois de janvier, lorsque l'école, immédiatement après d'ailleurs l'institution sécuritaire, le ministère de l'Intérieur, lorsque l'école a été convoquée à la fois comme responsable et comme coupable dans la situation que nous traversons et dans le traumatisme collectif que notre pays a connu. Comment se fait-il que des jeunes qui ont passé par toutes les étapes du cursus scolaire français en soient venus à un tel niveau de distance, à une forme de désintégration aussi radicale d'avec notre pays, avec ses valeurs, ce qu'il est convenu d'appeler les valeurs de la République, et d'avec l'unité que nous prétendons former tous ensemble? Comment se fait-il que dans tant d'établissements scolaires de France, eh bien, nous ayons des jeunes qui soient manifestement incapables de s'associer à un moment d'unité nationale, ne serait-ce qu'autour de ce qui paraît même former une unité humaine élémentaire, le respect des morts et le silence devant la tragédie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas, et là encore on se demande où on va, et donc immédiatement après que le ministre de l'Intérieur ait terminé le chapitre de la sécurité, eh bien c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a été mis sur le devant de la scène, sommé de produire un grand projet de mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, dont le but est de nous montrer que l'école va enfin assumer son rôle et réconcilier la jeunesse avec l'unité nationale. Mais on voit bien encore une fois que tout ceci est extraordinairement confus et qu'on peine à trouver une orientation claire. On se demande donc où va l'école. Précisément, je crois que le propre du regard contemporain que nous portons sur l'école conduit à faire en sorte que l'école n'aille plus nulle part. Que l'école ne soit plus un lieu où l'on va d'ailleurs, mais un lieu où l'on est et où on doit rester soi-même, un lieu où on doit être protégé dans sa personnalité déjà formée. C'est là peut-être ce que nous appelons l'esprit critique, la volonté en tous les cas de construire dans nos élèves leur liberté, en tous les cas de préserver, de protéger cette liberté, de faire en sorte qu'ils conservent toujours cet esprit critique et de leur donner à ces élèves l'occasion de l'exprimer en permanence pour être certains qu'ils ne seront pas dépendants de nous, qu'ils ne seront pas aliénés par nous. Alors, vous avez certainement déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup, et si vous êtes ici, c'est que les questions éducatives vous préoccupent. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le maître mot de la pédagogie contemporaine à l'école est l'interdit de la transmission, la condamnation de la transmission, précisément au nom de cet esprit critique tant désiré, au nom de cette volonté d'éveiller chez les enfants l'esprit critique. Je le racontais dans ce petit livre, Les Déshérités, qui est le résultat en fait de ma rencontre avec l'expérience passionnante et traumatique de l'IUFM. J'ai croisé une jeune collègue qui est actuellement à l'ESPE en ce moment, et qui vit la même expérience sans doute que celle que j'ai vécue, hein, l'IUFM, qui a formé des générations de jeunes enseignants, était tout entier structuré autour de ce dogme fondamental selon lequel il ne faut pas transmettre un savoir, il ne faut pas transmettre des contenus de connaissances. Et je lisais il y a de cela quelques semaines ce témoignage d'un jeune professeur d'anglais qui racontait son inspection sur le site Rue 89, un témoignage absolument fabuleux qui n'est pas susceptible d'être taxé de quelconque parti pris. Hein, même d'ailleurs, ce jeune professeur d'anglais, avec beaucoup de courage et de bonne volonté, tente d'appliquer les préceptes qui lui ont été proposés par sa formation. Il est en cours d'anglais et au lieu d'apprendre aux élèves ce qu'il veut leur transmettre dans cette séquence, hein, c'est la séquence, c'est le terme consacré, donc il est en train de s'intéresser avec ses élèves sur la formation du pluriel en anglais en classe de 5e, au lieu de leur expliquer qu'il y a des pluriels réguliers et des pluriels irréguliers, de leur donner la règle qu'il faut apprendre pour pouvoir ensuite l'appliquer, eh bien il leur propose de produire la règle par eux-mêmes en observant des mots, en jouant avec des mots, en regardant ces termes et en considérant que ces mots ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont au singulier et au pluriel et que le pluriel donc ne se construit pas de la même façon. Et l'inspecteur qui est dans la salle de classe lui reproche de faire un cours encore trop frontal, c'est son expression. C'est-à-dire un cours où il est encore trop dans la position de l'enseignant, dans la position du sachant vis-à-vis des apprenants qui sont devant lui. Un cours où donc il fait peser sur eux le poids de ce savoir accumulé qui constitue une forme de condescendance et d'oppression pour ces malheureux élèves qui sont dénués de leur capacité de faire preuve d'esprit critique à son égard. Il faut donc que l'école protège dans l'enfant sa propre liberté. Cette liberté, et c'est cela qui me paraît le plus important et le plus intéressant à signaler, cette liberté qui est considérée comme un donné, comme quelque chose qui est donné par principe à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est libre, il est capable d'esprit critique et il faut faire en sorte qu'il puisse, à l'école, faire l'usage et l'exercice de son esprit critique. C'est là d'ailleurs l'obsession contemporaine, à tel point que l'école en vient à un certain nombre d'injonctions contradictoires vis-à-vis du monde enseignant, injonctions contradictoires qui, comme vous le savez, ont le propre, dans n'importe quel mauvais management, de rendre celui auquel il s'applique complètement fou, ce qui est, je crois, l'occasion de constater que notre éducation nationale est comme un gigantesque système entré en dépression collective à la suite de cette multiplication d'injonctions contradictoires qui pèsent sur lui. Et la plus grande de ces injonctions contradictoires, c'est la nécessité d'organiser en permanence des lieux pour l'esprit critique des élèves, tout en continuant malgré tout de transmettre quelque chose comme justement ces fameuses valeurs de la République. On l'a vu encore dans le grand plan de mobilisation proposé par la ministre de l'Éducation nationale. Il faut que les élèves soient récipiendaires de ces valeurs, qu'ils les reçoivent tous et qu'ils puissent tous témoigner de leur bonne adhésion aux valeurs de la République. Et en même temps, il faut que les enseignants exercent en permanence leur esprit critique en organisant systématiquement des débats dans les salles de classe, mais tout en même temps en veillant à ce que jamais un dérapage n'ait lieu, c'est-à-dire que jamais un élève n'exprime une opinion contradictoire. Voilà ce qu'on appelle une injonction contradictoire. Organisons un débat, mais vous avez intérêt à être tous d'accord, parce que sinon je vous signale au rectorat. C'est là la finalité, c'est là d'une certaine façon la fin et plutôt le terme qu'autre chose du dialogue éducatif tel qu'il nous est proposé. Pour le dire autrement, il me semble que le point central de cette conception de l'éducation que nous partageons massivement dans la société contemporaine, c'est l'idée que la liberté est déjà donnée à l'enfant, que l'enfant est déjà libre et qu'il vient déjà à l'école avec la totalité de sa liberté. Quand on enseigne la philosophie, par exemple, peut-être pouvez-vous en témoigner aussi, on a souvent affaire à cette remarque qui se veut une forme d'objection. Ah, vous enseignez la philo, ah, c'est cool la philo, c'est vraiment génial, trop le swag d'enseigner la philo. C'est vraiment super, mais vous savez, vous devriez permettre à vos élèves de s'exprimer personnellement et non pas leur faire lire des grands auteurs. Le syndrome du cercle des poètes disparus. Et l'idée qu'en fait, en réalité, il y a une contradiction, une tension entre l'autorité des auteurs, le fait de lire des grands auteurs, et le fait de pouvoir exprimer une pensée qui soit vraiment personnelle. Vous devriez cesser de leur faire lire des auteurs qui vont les dénaturer, qui vont transformer leur propre réflexion, qui vont la rendre artificielle, qui vont l'aliéner, c'est-à-dire la donner à autre chose qu'eux, à cette autorité qui les précède. Vous devriez les préserver de ces grands auteurs pour les laisser penser par eux-mêmes. Et c'était là encore exactement l'injonction qui nous était faite à l'IUFM. Surtout pas de cours magistral, par exemple. Surtout ne rentrez jamais en cours en disant à vos élèves « Aujourd'hui, nous allons travailler sur le bonheur et j'ai quelque chose à vous apprendre qui mérite d'être entendu. » Non, non, on rentre en cours, on dit « On va parler du bonheur, on met les tables en carré, on fait des ateliers participatifs, on écrit des chansons ensemble, etc. » Et à la fin, le professeur se fait le porte-parole de la géniale créativité de ses élèves. Et c'est là une idée que, encore une fois, je crois, elle peut prêter à sourire, mais c'est une idée que nous partageons tous et qui est comme la clé de lecture, la clé de compréhension du regard que nous portons sur l'acte éducatif et sur la mission de l'école. Précisément, l'école ne va nulle part puisque tout est déjà donné par principe. De ce fait, du coup, la seule mission de l'école consiste à permettre aux enfants d'acquérir les savoirs indispensables pour leur vie professionnelle de demain, le bagage culturel qui leur sera nécessaire pour pouvoir trouver leur position dans la vie économique, pour pouvoir tenir leur rang dans la lutte pour la survie à l'intérieur du système économique de demain, mais assurément pas à les conduire vers un lieu de leur existence où ils ne seraient pas encore arrivés. Ils nous sont donnés, ils sont donnés à eux-mêmes immédiatement, dans l'immédiateté absolue de leur personnalité, et nous n'avons rien à ajouter à ce qu'ils sont, nous n'avons rien à ajouter à leur liberté. Et c'est là, encore une fois, ce qui permet de comprendre aussi la grande utopie de l'éducation nationale contemporaine, dont vous avez certainement entendu parler, cette gigantesque et merveilleuse utopie qui s'appelle le numérique. Le numérique, c'est la promesse qui vient accomplir ce fantasme de l'éducation nationale, ce fantasme de l'immédiateté, le fantasme d'une éducation qui serait enfin débarrassée de l'exercice d'une autorité, de la présence d'un tiers qui viendrait s'interposer entre le savoir et l'élève. Désormais, l'élève, par Internet, peut accéder au savoir à la mesure de ses besoins, à la mesure de l'utilité qu'il y trouvera, d'une manière, encore une fois, immédiate. Nous allons acheter des tablettes à tous les élèves de 5e. On ne sait pas exactement pourquoi, d'ailleurs, mais on va quand même les acheter, parce que les tablettes, c'est le bien. C'est ça la promesse d'aujourd'hui, parce que grâce aux tablettes que nous allons distribuer à ces élèves de 5e, ils pourront accéder au savoir sans passer par l'enseignant, accéder au savoir, pour le dire autrement, sans passer par un intermédiaire, accéder au savoir sans passer par un adulte, accéder au savoir sans passer par nous. Grâce à Internet, nos enfants et nos élèves sont enfin débarrassés de nous, et nous sommes trop heureux d'avoir enfin accompli, grâce à cette utopie de l'immédiateté numérique, d'avoir accompli la grande promesse de l'éducation nationale d'aujourd'hui, nous délivrer de la médiation, entrer dans le règne de l'immédiateté. Effectivement, si l'enfant est lui-même immédiatement libre, s'il est immédiatement lui-même, s'il est immédiatement donné à lui-même avec toutes ses qualités, toutes ses compétences, toute sa personnalité, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons ajouter à cette liberté ? Rien du tout. Laissons-le être lui-même, laissons-le être vraiment libre, délivrons-le de cette autorité qui pèse sur lui comme une aliénation, et ainsi il sera accompli dans sa nature propre et dans sa liberté. Alors dans Les Déshérités, j'ai tenté de revenir de façon très, très modeste sur ce qui me semble être quelques moments importants de l'origine intellectuelle de cette fascination pour l'immédiateté qui caractérise aujourd'hui notre regard sur la culture, notre regard sur l'éducation. Alors, Monsieur Dumont le disait, c'est un travail qui est effectivement très rapide et qui n'a pas la prétention d'avoir une qualité universitaire. Jamais sans doute ouvrage n'aura mieux mérité l'appartenance à sa catégorie. C'est un essai, voilà, c'est un humble essai. Il pourrait d'ailleurs y avoir dans cet essai matière à beaucoup de discussions. On pourrait évidemment, s'il fallait entreprendre cette généalogie intellectuelle d'une manière plus sérieuse, y consacrer sans doute des milliers et des milliers de pages, et d'autres le feraient bien mieux que moi. Mais j'ai tenté tout simplement, et là encore comme un humble écho à partir de ma discipline à l'expérience de l'UFM, j'ai tenté de comprendre malgré tout, à partir de quelques moments qui me paraissaient particulièrement saillants, de comprendre l'origine de ce discours. Alors, je voudrais simplement m'arrêter sur un moment qui me paraît décisif, et je n'aurai pas le temps évidemment de m'apesantir sur les autres, mais ce moment qui me paraît décisif, c'est le moment rousseauiste. Parce que je crois que Rousseau est justement celui qui manifeste ce basculement dans le paradoxe, la tension qui a toujours été au cœur de l'acte éducatif entre la liberté de l'enfant qu'il s'agit de préparer et l'acte de la transmission par laquelle on espère préparer cette liberté. Rousseau fait basculer ce paradoxe et d'une certaine façon l'annule en montrant que en réalité justement toute transmission est une forme de dénaturation de l'enfant. Rousseau est celui qui le mieux incarne ce que Starobinski, l'un de ses plus grands commentateurs, appelait le règne de l'immédiateté. Et le but de Rousseau est de rétablir ce règne de l'immédiateté dans l'enfant. Comme vous le savez, tout le travail de Rousseau s'est concentré autour d'une grande idée, une grande idée qui lui vient alors qu'il va en chemin dans la forêt de Vincennes pour visiter son ami Denis Diderot qui est emprisonné pour avoir écrit la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Rousseau marche dans la forêt et il lit une question qui est posée dans le Mercure de France par l'Académie de Dijon. Et cette question est la suivante: en quoi les sciences et les arts ont contribué à améliorer l'homme et à faire progresser le genre humain? Évidemment, pour l'Académie de Dijon, en plein milieu du siècle des Lumières, c'est une sorte de question rhétorique. Le siècle des Lumières est celui qui pense que le savoir, que la connaissance, que la culture sont justement le moyen de l'émancipation du genre humain et que, en écrivant des encyclopédies, c'est-à-dire en réunissant tous les savoirs que les hommes ont produits, on contribue à faire reculer tout ce qui empêche l'homme d'être libre, les fanatismes, les superstitions et les oppressions de toutes sortes. Il s'agit donc de se livrer, dans l'esprit des académiciens de Dijon, à un éloge de la culture. Mais Rousseau, et c'est le moment qui déterminera toute sa vie d'auteur et sa position contradictoire au sein du siècle des Lumières, Rousseau est saisi de ce qu'il présentera plus tard comme une illumination, et d'un seul coup lui vient cette grande idée qui va marquer toute son œuvre. En fait, l'homme est bon par nature, c'est naturellement que l'homme est bon, et toute la société, toute la culture le pervertit. La culture est une malédiction pour la nature humaine, parce que la culture nous empêche d'être naturellement ce que nous sommes. La culture nous empêche de rester naturel. L'homme est naturellement bon, et c'est la société qui le pervertit. Cette idée-là, je crois, nous la partageons collectivement, et nous regardons le monde avec les yeux de Rousseau, nous regardons l'humanité bien souvent avec les yeux de Rousseau, certains que la vie en société, que la culture, au sens le plus large de ce terme, nous empêche d'être nous-mêmes et nous condamne à devenir artificieux, nous condamne à devenir artificiels. J'en veux pour preuve, par exemple, le basculement du regard que nous portons sur l'enfant. C'est là une chose tout à fait singulière. Il y a dans l'histoire de la philosophie des questions dont on n'arrive même pas à penser qu'elles aient pu se poser un jour. C'est le cas de la question, par exemple, que pose Aristote dans l'Éthique à Eudème. Aristote se demande si les enfants peuvent être heureux. Et Aristote répond à cette question que non, les enfants ne peuvent pas être heureux. Pourquoi ? Parce que pour Aristote, être heureux, c'est être accompli, c'est avoir par l'habitude, par l'exercice, accompli les vertus qui nous permettent de devenir vraiment ce que nous sommes, d'accomplir notre être propre, d'accomplir notre fonction d'homme. Et par voie de conséquence, si être heureux, c'est être accompli, alors plus on grandit, plus on vieillit, plus on s'accomplit. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne soit pas heureux ou qu'il soit nécessairement malheureux, mais il n'est jamais complètement heureux, jamais en tous les cas aussi heureux qu'un adulte peut l'être, car l'enfant est en train de s'accomplir et l'enfant est précisément celui qui est dans cette étape intermédiaire en vue de l'âge adulte. L'adulte, au contraire, c'est celui qui s'est accompli et donc l'adulte en pleine possession de ses facultés peut être vraiment heureux. Rousseau, voyez, inverse de façon absolue cette perspective qui avait régné d'ailleurs sur les théories éducatives avec parfois une forme de brutalité, de violence, enfin quelque chose qui pouvait réduire la condition de l'enfant et auquel il ne faudrait pas revenir. Mais Rousseau inverse malgré tout cette perspective d'une façon qui me paraît très singulière. Évidemment, si l'homme est naturellement bon, et si la société nous empêche d'être nous-mêmes, si la société nous empêche d'être naturels, si la culture nous éloigne de notre propre personnalité, alors qui est vraiment pur? Qui est vraiment naturel? Qui est vraiment lui-même? Qui est vraiment libre? Eh bien, c'est l'enfant. Et nous qui sommes des adultes, nous qui avons reçu déjà l'influence de la culture, nous qui avons été exposés à l'acte de la transmission, nous qui avons beaucoup reçu, nous sommes privés désormais de notre spontanéité originaire, de notre liberté originaire. Et par voie de conséquence, nous sommes nécessairement moins heureux qu'un enfant peut l'être ou qu'un adolescent peut l'être. C'est la clé, je crois, de cette nouvelle naissance ou de cette nouvelle signification du mythe de l'éternelle jeunesse. Le regard que nous portons aujourd'hui sur la jeunesse, ce regard envieux, ce regard jaloux que le monde des adultes porte sur la jeunesse et qui est d'ailleurs, je crois, si anxiogène pour bien des jeunes. Regardez la façon dont nous parlons aujourd'hui du bonheur et du rapport entre l'âge et le bonheur. À 20 ans, tout va très bien. À 25 ans, ça va encore. À 30 ans, le basculement. À 40 ans, la crise de milieu de vie. À 50 ans, le côté obscur de la force. Et après, on ne dit pas son âge. Je préfère... Il suffit de se souvenir de cette publicité de Virgin Radio, que vous connaissez peut-être, cette publicité sur laquelle on voyait deux personnes visiblement d'un certain âge, marquées par la vie, mais qui s'habillaient comme des collégiens en pleine rébellion, avec quelque chose d'ailleurs de totalement ridicule et dérisoire dans ce travail de l'adulte, ou même de l'aîné qui veut singer la jeunesse, et la devise de cette publicité, c'était « Restez frais ». Voilà. Restez frais, restez jeune, c'est là le rêve de toute vie, et le monde des adultes, d'ailleurs je le vois comme enseignant, comme éducateur, peut-être vous le constatez aussi, le monde des adultes ne cesse de dire aux jeunes, de renvoyer aux jeunes cette image en permanence, comme nous aimerions être à votre place. Le rêve absolu, notre rêve absolu, ce serait de rester toujours à la place où vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes encore libre, vous êtes encore neuf, vous êtes encore frais, vous êtes encore spontané, vous êtes encore naturel. Et nous, au contraire, nous sommes devenus artificiel, artificieux, en rentrant dans toutes les conventions de la société. Nous aimerions toujours rester jeunes. Eh bien, cette idée-là, vous voyez, je crois d'ailleurs, elle est terrifiante pour les jeunes, parce que de fait, comment voulez-vous vous projeter avec enthousiasme dans votre avenir quand tout le monde des adultes vous dit que votre avenir ne peut être qu'une longue et lente déchéance. Bref, Rousseau accomplit, je crois, d'une façon singulière ce basculement dans le regard porté sur l'enfant. Hein, si l'homme est naturellement bon, alors il convient désormais dans la tâche éducative de protéger le plus possible l'enfant dans l'homme. L'éducation rousseauiste est, selon le terme de Rousseau lui-même, une éducation négative. La connaissance qui est transmise à l'enfant ne peut que conduire à le rendre lui-même artificiel, à polluer cette nature qui est encore innocente et ignorante en lui, et le rêve absolu serait de rester dans cet état d'ignorance éternelle, si c'était possible. Malheureusement, nous sommes passés dans l'état social, c'est là la malédiction originaire que Rousseau raconte dans le second discours. Nous sommes passés dans l'état social, nous ne le quitterons plus, mais tant qu'à faire, formons dans l'état social des enfants qui soient le plus sauvage possible, au sens littéral de ce terme, au sens du bon sauvage que les peuples, que les sociétés des Lumières croient trouver dans les peuples primitifs qu'elles découvrent au-delà des mers. Il faut protéger l'enfant dans l'homme, faire en sorte qu'il soit le moins exposé possible à cette influence de la société. Bref, ce qui compte, c'est de restaurer dans l'enfant le règne de l'immédiateté. Et dans l'Émile, son grand traité de pédagogie qui mériterait d'être lu et relu tant il éclaire de façon très précise la situation actuelle de notre école. Dans l'Émile, Rousseau développe, sous la forme d'une narration, comme vous le savez, d'une histoire, celle de l'éducation d'un enfant qui s'appelle Émile, hein, sous la forme d'un roman, Rousseau raconte les grands principes de cette éducation négative. On y retrouve alors là, mais d'une façon vraiment très précise et très nette, les différentes directives qui structurent aujourd'hui l'éducation nationale. La première règle de l'éducation d'Émile, c'est l'absence de toute autorité dans l'acte éducatif. En tous les cas, il faut que l'autorité soit la plus masquée possible, la plus déguisée possible. Ça n'exclut pas d'ailleurs un certain machiavélisme qui transforme l'éducation en une forme de coercition cachée, hein, ce qui n'a rien de très enthousiasmant non plus. Mais malgré tout, l'autorité ne doit jamais apparaître. Il faut que l'enfant croit toujours être le maître. Il faut laisser venir l'enfant, dit Rousseau, en toutes circonstances, laisser venir l'enfant. Cette absence d'autorité se combine avec la volonté d'une égalité absolue entre l'adulte et l'enfant. D'ailleurs, il faudrait, si c'était possible, que l'enfant soit éduqué par un autre enfant. On s'émerveille toujours aujourd'hui de l'éducation par les pères, hein, du fait que précisément il faut remplacer la figure du père, la figure paternelle, par la figure de la parité, du père P-A-I-R. Il faudrait que l'enfant ne puisse être éduqué que par un autre enfant, mais ça n'est pas possible, encore une fois, à cause de cette nécessité sociale qui pèse sur nous comme une malédiction. Il faut donc bien que l'adulte s'en occupe, mais si c'était possible, il faudrait qu'il soit le plus ressemblant à l'enfant, même le plus jeune possible en quelque sorte, et surtout que jamais, 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 il ne se prévale d'une quelconque inégalité dans le rapport à l'enfant, et notamment d'une inégalité dans le rapport au savoir. Jamais l'adulte ne doit se montrer comme celui qui sait ce que l'enfant ne sait pas encore. Et quand l'enfant dit « je ne sais pas », l'adulte doit répondre « je ne sais pas non plus, cherchons ensemble ». C'est ce que l'éducation nationale, dans son jargon qui manque beaucoup de poésie par rapport à l'Émile, affirme que, c'est ce que l'éducation nationale dit lorsqu'elle affirme que dans l'espace classe, il ne faut pas qu'il y ait un sachant et des apprenants. C'est en fait exactement la même idée. Il ne faut pas qu'il y ait un expert, quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas encore, sans quoi Émile sera privé de cette sacro-sainte liberté qu'il s'agit de préserver en lui. Cette liberté qui est encore une fois un donné et qu'il faut protéger. Hein, Rousseau nous avertit, l'éducateur ne doit surtout toucher que le moins possible à l'enfant. Ne s'approcher de lui qu'avec terreur, avec scrupule, avec inquiétude, car tout ce qu'il fera, cet éducateur viendra perturber la nature de l'enfant, la dérégler, la déranger, l'empêcher d'accomplir sa course, de rester identique à elle-même, l'empêcher de demeurer dans cette bienheureuse immédiateté. Il le faut, car encore une fois, l'éducation est une malédiction nécessaire et rendue nécessaire par la vie en société, il le faut, mais que cette malédiction du moins soit la plus ténue possible. Alors pour éviter justement que l'on vienne briser cette immédiateté, eh bien il faut préserver l'enfant de tout ce qui pourrait ressembler à un savoir qui serait purement reçu, qu'il voudrait recevoir d'une manière passive. Et par exemple, la première chose dont il faut absolument préserver l'enfant, c'est le livre. Pourquoi ? Parce que le livre est justement l'incarnation, l'objet qui matérialise le mieux cet acte d'une transmission qui se reçoit d'une façon passive, d'une façon purement réceptive. Le livre n'est pas interactif, le livre n'est pas participatif. Avec l'auteur d'un livre, on n'engage pas un débat. On lit un livre et on accepte de le lire, cela suppose un acte d'humilité, cela suppose de considérer qu'on a peut-être quelque chose à découvrir, quelque chose à recevoir. Et ceci, précisément, c'est ce qu'il faut exclure absolument de l'éducation d'Émile. « Je hais les livres », écrit Rousseau, « je hais les livres ». Voilà qui éclaire encore une fois d'un jour nouveau un certain nombre de polémiques contemporaines. Vous avez peut-être vu il y a quelques semaines de cela qu'une enseignante de collège avait été sévèrement réprimandée par sa principale parce qu'elle faisait trop lire ses élèves, hein, la méfiance à l'égard du livre et la fascination, encore une fois, pour le numérique ne s'exprime pas uniquement par le fait que l'objet serait en lui-même dépassé pour des raisons technologiques, mais par le fait qu'il incarne, je crois, d'une manière très profonde cette médiation que nous voudrions bannir. Bref, il faut faire en sorte que l'enfant demeure dans un état d'immédiateté absolue et que tout le savoir qu'il possédera, il l'ait produit par lui-même. Alors, on peut ne prendre qu'un seul exemple pour illustrer cette méthode de l'éducation négative. Émile se promène avec son précepteur au bord d'une rivière, spectacle très bucolique et champêtre. Nous sommes au bord de la rivière, Émile joue avec un bâton, qui est un bâton tout droit, et puis quand il met le bâton dans l'eau, bien, il se rend compte que le bâton apparaît courbé. Illusion d'optique tout à fait classique que notre collègue professeur de physique pourrait nous expliquer bien mieux que je ne saurais le faire. Donc illusion d'optique parfaitement compréhensible. Alors l'enfant dit « je ne comprends pas ». Vous l'avez compris, la grande erreur, ce serait que notre collègue professeur de physique lui explique « voilà, ce sont les lois de la réfraction, ça s'explique d'une manière très simple ». Non, non. L'adulte doit répondre « je ne comprends pas non plus, cherchons ensemble ». Et nous allons, écrit Rousseau, réinventer l'optique autour de ce bâton. Alors vous vous dites, continue Rousseau, que ça va prendre un peu de temps. Et vous vous doutez que ça va pas être très simple. Et même, vous êtes peut-être en train de penser qu'Émile ne va pas y arriver. Ou que si par miracle il y arrive, il y a beaucoup de choses qu'il n'aura pas le temps de faire du coup, parce que ça va lui prendre beaucoup de temps. Et bien vous avez raison. Mais alors quel est le problème? De toute façon, à quoi ça sert de savoir l'optique? À quoi ça sert d'aller en cours de physique? À quoi ça sert fondamentalement? Quelle est l'utilité de tout cela? Ça ne sert strictement à rien. Reconnaissez-le, en envoyant vos élèves dans les merveilleux établissements lyonnais, en les mettant aux Maristes où ils font des études fabuleuses, eh bien, vous ne faites rien d'autre, dit Rousseau, qu'en faire les instruments de votre propre position dans la compétition sociale, et vous leur apprenez à tenir leur rang dans la compétition sociale. Vous en faites, dit Rousseau, vous en faites des perroquets. Vous en faites des marionnettes, vous leur apprenez à réciter des choses et vous les évaluez sur leur capacité de répétition, cette performance dans le mimétisme qui les condamne à devenir autre chose qu'eux-mêmes, à ressembler à des stéréotypes que vous leur infligez. Il faut au contraire déconstruire ces stéréotypes, il faut priver et préserver l'enfant de toute l'influence de ce savoir qui de toute façon ne servira strictement à rien. À rien du tout. Il faut simplement apprendre à Émile à trouver le savoir là où il en a besoin et quand il en a besoin. C'est la seule chose qui compte. Émile, je vous le disais à l'instant, ne touchera pas un livre avant l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, il a droit de lire un livre, et il a droit de lire un seul livre pendant 3 ans. Il intéresse que ce soit intéressant, hein. Alors vous vous demandez quel livre c'est, voyez, quel livre ça pourrait bien être qu'on va lire pendant 3 ans avec lui. Ça pourrait être la Bible, ça pourrait être Homère, ça pourrait être Platon. Non, non. Ce livre, c'est Robinson Crusoe. Pourquoi? Parce que Robinson Crusoe, c'est l'emblème de ce que Rousseau veut préparer dans son élève. Robinson Crusoe, c'est celui qui arrive sur une île déserte. Et sur une île déserte, précisément, le rapport au savoir est strictement utilitaire. On pose toujours cette question absurde de savoir quel livre vous emmèneriez si vous deviez partir sur une île déserte. Mais enfin, si vous partez sur une île déserte, la dernière des choses que vous avez besoin de prendre avec vous, c'est vraiment un livre, hein, parce que ça ne sert à rien. Sur une île déserte, vous avez simplement besoin de savoir comment vous allez pouvoir trouver de quoi vous nourrir, vous protéger des dangers et des intempéries, et continuer à survivre envers et contre tout. Eh bien, voilà, c'est la seule chose qui compte. Il faut que Émile vive demain dans la société comme Robinson Crusoe sur son île déserte. Il faut que ce qui compte pour lui soit de trouver à chaque fois le savoir dont il a besoin et rien de plus. Tout le reste doit lui être épargné. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous structurons nos enseignements pour transmettre non pas des savoirs mais des savoir-faire, des compétences. C'est le jargon là encore récurrent. Il faut que nos élèves soient capables de chercher, de produire du savoir et surtout pas que nous leur infligions, que nous les affligions d'un savoir qui viendrait de notre esprit et qui descendrait vers le leur. Ceci, ce serait les aliéner, les garder au contraire dans leur liberté, c'est les préserver de tout ce que nous pourrions leur transmettre et faire en sorte qu'ils soient simplement capables de construire leur propre vie et de trouver du savoir à la mesure de l'utilité qu'ils éprouveront demain. J'étais, il y a quelques semaines de cela, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un groupe de parlementaires qui m'avait invité pour réfléchir sur les questions éducatives, et il y a un parlementaire qui me dit, pendant cette réunion, vous savez, à l'école, ça rejoint votre propos, à l'école, on ne devrait pas transmettre des contenus, on devrait transmettre l'esprit critique. C'est la seule chose qui compte. Et deuxièmement, dans tout ce qui est transmis à l'école, on devrait se donner une règle très simple pour la réforme de l'éducation nationale. La réforme de l'éducation nationale, c'est très très facile. On va prendre tout ce qui est pratiqué à l'école, toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école et tout ce qui n'est pas directement utile à la vie de l'entreprise, on le supprime. Alors l'exemple qu'il prenait, c'était d'avoir dû apprendre à jouer du pipeau en cinquième. Apparemment, ça l'avait passablement traumatisé de devoir, vous savez, comme vous l'avez peut-être fait vous aussi, jouer de cette flûte en plastique qu'on nous a collée dans les doigts en cinquième pour apprendre des rudiments de solfège et de musique. Et donc ça lui paraissait totalement inutile. Quoique apprendre à jouer du pipeau quand on est parlementaire, c'est pas toujours si inutile que ça. Mais enfin, c'est une petite parenthèse. Alors, en même temps, c'était tout à fait vrai. C'est vrai, le pipeau, ça sert à rien dans la vie professionnelle. Mais si vous regardez maintenant un peu sérieusement, il faut pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Si vous prenez 3 secondes pour vous demander, dans tout ce que vous avez appris à l'école, qu'est-ce qui vous a été directement utile dans votre vie professionnelle? Bah, généralement, au bout de 3 ou 4 secondes, vous allez éprouver une sorte de gigantesque vertige dépressif. Vous allez vous dire qu'en fait, vous avez passé 15 ans de votre vie pour absolument rien. Parce que de fait, c'est vrai, de tout ce que nous avons reçu à l'école, quasiment rien n'a été utile pour la vie professionnelle, ou en tous les cas, directement utile. Le Gorafi, qui est un site d'information parodique absolument extraordinaire, publiait il y a de cela 3 semaines un article qui était titré, je ne sais plus quel était le prénom exact, mais enfin, Didier, 45 ans, fou de joie après avoir réussi à utiliser pour la première fois de sa vie dans la vie quotidienne le théorème de Pythagore. Mais c'est vrai, concrètement, le théorème de Pythagore, ça ne nous a pas servi à grand-chose dans la vie quotidienne, ça ne nous a pas servi à grand-chose dans notre vie professionnelle. Et donc, vous voyez, au fond, nous sommes tous rousseauistes au sens où nous partageons tous cette idée que le savoir ne devrait être transmis qu'à la mesure du profit que nous pouvons y trouver, et non pas d'ailleurs transmis. Mais nous devrions simplement permettre à nos élèves de se mettre en condition, en capacité de chercher le savoir à la mesure de leurs besoins au moment où ils en auront besoin. Et c'est cela, cette immédiateté qu'il faut protéger dans l'enfant. Et c'est cela, paradoxalement, car Rousseau n'aurait pas été certainement un très grand partisan d'Internet, mais c'est en cela qu'Internet vient accomplir la promesse de l'immédiateté rousseauiste, la promesse rousseauiste d'une éducation dépourvue de médiation, d'une éducation dépourvue de médiateur, dépourvue d'intermédiaire. Désormais, l'école, donc, ne va plus nulle part. L'école n'est plus un lieu où on va quelque part, mais un lieu où on apprend simplement à se débrouiller pour pouvoir, en restant soi-même, en restant là où on est, en restant celui qu'on est, pour pouvoir trouver le savoir dont on pourra tirer quelques profits au moment où on en aura besoin. Le travail de Rousseau dans l'Émile se conclut par ce portrait robot d'Émile qui est un texte d'une lucidité fascinante, et c'est en cela qu'on reconnaît les grands auteurs, que leur pensée, assumée jusque dans ses ultimes conséquences, nous rend plus libres dans notre propre pensée, et j'y reviendrai dans un instant. Rousseau fait le portrait de son élève, de cet élève rêvé, de cet élève désiré, de cet élève que devrait produire une éducation négative telle que Rousseau l'imagine, c'est-à-dire une éducation qui se donne comme maxime, ce précepte fondamental, « Je lui apprends », dit Rousseau en parlant de son élève, je lui apprends bien plus à ignorer qu'à savoir. De ce point de vue-là, on se rend compte que l'éducation nationale n'est pas tant en échec que cela. C'est une réussite dans certains lieux et à certains endroits relative, mais dans certains lieux et à certains endroits, une réussite quasiment absolue. Voilà donc le portrait d'Émile par Rousseau. Émile a peu de connaissances, mais toutes celles qu'il a sont véritablement siennes. Il sait peu généraliser d'idées, peu faire d'abstractions. Émile ne sait ce que c'est que métaphysique ou morale. Il n'a aucune idée des relations morales de l'homme à l'homme, mais il sait tout des relations utiles de l'homme aux choses. Émile croit ne rien devoir à personne. Il est seul dans la société des hommes, il ne compte que sur lui seul. Émile n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature, c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes. Le texte, encore une fois, est vertigineux de précision, et à bien des égards, nous pouvons y trouver quelques traits de ces élèves qui sont le résultat d'une éducation qui a considéré que l'école n'avait pour but que de protéger la liberté de l'enfant telle qu'elle était immédiatement donnée, tout en le préservant de la transmission du savoir. Faire en sorte que l'enfant puisse en permanence exercer son esprit critique, préparer toujours le règne de sa liberté, comme le disait Rousseau, consacrer cette liberté critique comme ce qui doit prévaloir toujours dans l'acte éducatif, c'est là ce que nous avons tenté de faire avec Rousseau et derrière lui, et nous sommes arrivés aux conséquences dont il rêvait à bien des égards, sauf que, bien souvent c'est là le travers des sociétés par rapport aux grands philosophes, sauf que nous n'arrivons pas à assumer les conséquences de cette décision que nous avons pourtant collectivement prise. Et nous regrettons, pour le coup, contrairement à Rousseau, que nos élèves soient les responsables à bien des égards de ce que nous appelons cet ensauvagement du monde qui nous inquiète et qui nous angoisse. Et c'est là, précisément, où se trouve le véritable paradoxe. Nous voudrions d'une école qui déconstruisent la transmission du savoir, qui déconstruisent tous les savoirs qui soient structurés par cette volonté de déconstruction que l'on retrouve si souvent dans le vocabulaire politique lorsqu'il s'agit de l'école, la déconstruction des stéréotypes, la déconstruction d'une tradition, la déconstruction d'une transmission. Nous voudrions d'une école qui protège toujours la liberté critique de l'enfant et cet esprit critique permanent. Et en même temps, nous regrettons que l'école ne parvienne plus à créer, à sécréter le sens du commun, le sens de l'appartenance à une nature commune, le sens de la règle sans laquelle il n'y a pas de liberté véritable, de liberté publique et de liberté individuelle. Et de ce point de vue-là, nous sommes contradictoires. Nous sommes contradictoires quand nous prétendons transmettre des valeurs sans transmettre des savoirs. Car enfin, et c'est là le point que j'ai tenté de développer humblement dans ce petit ouvrage, mais le point qui, je crois, rejoint l'expérience de tout éducateur, le propre de notre expérience humaine, c'est justement que nous ne sommes pas immédiatement nous-mêmes. Le propre de toute expérience humaine, c'est de n'être pas capable de cette immédiateté. Et c'est là, je crois, peut-être notre grande différence avec l'animal. Le propre de l'animal, c'est d'être immédiatement lui-même. Alors, il faudrait rentrer ici dans des détails et des subtilités qui mériteraient un long développement, et je suis désolé parce que je n'en aurai pas le temps, donc je vais me contenter de considérations qui seront là encore trop schématiques et beaucoup trop superficielles. Mais malgré tout, on pourrait s'arrêter peut-être à cette considération très simple, que par rapport à l'homme, l'animal semble se distinguer en ce sens qu'il est capable d'accomplir de manière immédiate les compétences, les capacités, les facultés qui sont le propre de sa nature. Les abeilles n'ont pas besoin de faire des écoles d'architecture pour apprendre à construire des ruches, et les araignées ne font pas des écoles d'ingénieurs pour apprendre à tisser les toiles, alors que les toiles d'araignée, si vous y regardez bien, sont des miracles absolus d'équilibre. Mais une petite araignée sait tout de suite et de manière immédiate comment tisser une toile. Il n'y a pas de distance entre elle et son propre savoir, et cette absence de distance d'ailleurs, qui est fascinante pour nous, qui ne sommes pas justement des êtres d'immédiateté, cette absence de distance fait la force fascinante de l'animal et en même temps aussi la fixité de son espèce, son incapacité à faire l'expérience d'une liberté ou en tout cas de cette liberté dont pour le coup l'humanité semble capable. Jamais vous ne verrez une abeille architecte arriver en disant bah, « si on, pourquoi pas on ferait pas une ruche en gratte-ciel par exemple, ce serait quand même intéressant de tenter une forme architecturale nouvelle » ou bien si on faisait une révolution, on coupe la tête à la reine et on se répartit entre les ouvrières le capital collectif. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce qu'il n'y a pas de distance entre l'animal et sa propre espèce. Précisément, l'animal est cet être d'immédiateté, cet être chez lequel il n'y a pas de distance, pas de chemin possible entre lui et sa nature, entre lui et ses propres facultés. À côté de la petite abeille, de la petite araignée, ou bien à côté de n'importe quel petit oiseau, de n'importe quel peut-être petit animal, le petit bébé humain a l'air à peu près ridicule. Sa part d'immédiateté, car il y a bien en lui une part d'immédiateté, de faculté immédiate, semble extraordinairement faible par rapport à la totalité des facultés qui sont, pour le coup, le propre de son espèce. Le petit bébé humain sait pleurer pour dire qu'il a faim, encore on a parfois du mal à comprendre exactement ce qu'il veut dire, mais par rapport à ce qu'il est capable de faire, ceci est extraordinairement ténu. Comme participant de l'espèce humaine, le petit bébé humain, le petit être humain qui naît, est naturellement capable de penser, de parler, d'entrer en relation avec les autres, de créer, d'imaginer, d'inventer, il est naturellement capable d'aimer. Mais pour accomplir toutes ces facultés qui sont le propre de son espèce, il aura besoin de recevoir une culture dans laquelle seul peut s'accomplir ses qualités, dans laquelle seul peut s'accomplir cette capacité qui lui appartient pourtant naturellement. On n'aura jamais assez fini de comprendre ce mystère absolu qui est au cœur de toute expérience humaine et qu'on pourrait appeler le mystère de la médiation, ce mystère qui fait que nous ne sommes pas immédiatement nous-mêmes. Et que d'ailleurs, de ce point de vue-là, nous n'aurons jamais fini de devenir ce que nous sommes, comme le disait le vers de Pindare, « deviens ce que tu es ». Voilà qui nous renvoie à ce paradoxe fondamental, « deviens ce que tu es ». Quelle chose étonnante qu'il faille devenir ce que l'on est. Quand j'étais lycéen, je rêvais de devenir professeur de philosophie. Maintenant, je suis devenu professeur de philosophie. Je rêve de devenir Monsieur Dumont. Mais ça, c'est une autre affaire. Je ne me réveille plus le matin en disant « j'aimerais bien devenir professeur de philosophie, je le suis ». Et donc ceci, d'ailleurs, d'une certaine façon, même si j'ai encore tout à apprendre, suffit à ma béatitude. Donc, on ne devient normalement que ce qu'on n'est pas, que ce qu'on n'est pas du tout, que ce qu'on n'est pas encore. Et bien pourtant, au cœur de notre expérience la plus essentielle, il y a cette dimension mystérieuse de la nécessité pour chacun d'entre nous de rejoindre sans cesse un peu plus sa propre nature, sa propre personnalité, sa propre liberté, de devenir soi-même. Et nous ne pouvons devenir nous-mêmes que par la culture que nous recevons, que par ce qui nous est transmis. Prenons l'exemple le plus fondamental de la culture et le plus principal en même temps, le premier moment de la transmission de la culture, celui qui s'accomplit dès avant le moment où nous naissons, la transmission d'une langue. Nous avons tous reçu une langue. Alors comme vous le savez, le XXe siècle, dans la plus pure perspective que nous développions jusque-là, le XXe siècle s'est caractérisé par sa condamnation très vigoureuse de la langue. Roland Barthes écrivait dans sa leçon inaugurale au Collège de France, que vous connaissez certainement, que la langue est fasciste. Pourquoi la langue est-elle fasciste ? Parce que la langue nous impose de rentrer dans une certaine façon de parler. On nous a transmis une langue et une langue particulière. Les langues sont des produits culturels, il y a d'ailleurs des langues. Et on a reçu une langue que nous n'avons pas choisie. Elle est parfaitement contingente, c'est la langue de nos parents, c'est notre langue maternelle. La langue qui nous a été infligée donc par nos parents sans que nous n'ayons pu exprimer notre accord. On nous a transmis une langue et avec cette langue, on nous a obligés à entrer dans une autorité. Dans une discipline de la langue. Une langue, c'est une grammaire. Une langue, c'est une syntaxe. On parle une langue, mais on ne fait pas que parler une langue. On apprend à bien la parler. Et toute notre enfance, nous avons été repris par nos parents qui nous ont dit « Non, ça se dit pas comme ça » ou « Ça se dit comme ça » ou « Il faut pas dire ça » et parfois même sévèrement. Et puis ensuite, chose plus traumatisante encore, nous avons été à l'école. Et à l'école, nous avons fait des dictées. Pour le dire autrement, nous avons dû nous plier à l'orthographe compliquée de notre langue. Nous avons dû nous contraindre à adopter les règles de sa grammaire et nous avons dû donc nous exercer à nous conformer à cette autorité, à cette discipline de la langue qui nous précédait. Et nous avons subi ce qui est, vous en conviendrez avec moi, une forme de violence atroce. Nous avons eu des notes et même des mauvaises notes. Et nos copies ont été barbouillées de rouge et nous en sommes ressortis extraordinairement éprouvés. Heureusement que notre ministre se préoccupe désormais de construire une évaluation bienveillante pour éviter que des millions de traumatisés ne sortent désormais des établissements scolaires. Revenons donc à cette langue que nous avons reçue. Cette langue, nous dit Roland Barthes, elle est fasciste. Elle nous impose d'exprimer notre pensée dans des mots qui ne sont pas les nôtres, dans des mots qui nous viennent des autres, dans des mots qui ne nous appartiennent pas, des mots que nous n'avons pas construits nous-mêmes. Elle nous impose de faire entrer nos pensées les plus personnelles dans cette discipline de la langue qui nous a été imposée de l'extérieur. Voilà qui est révoltant, voilà qui est scandaleux. Et donc, conclut Roland Barthes, il n'y a de liberté qu'en dehors de la langue. Cette petite phrase, il n'y a de liberté qu'en dehors de la langue, elle résume à elle seule la tension que vous exploriez depuis le début de votre journée. Tension entre transmission et esprit critique, disiez-vous. Contradiction entre l'héritage et la liberté. Entre ce qui nous est transmis et ce que nous savons produire de nouveau et de singulier. Bien pour ma part, je crois que cette tension, en réalité, ne naît que si nous faisons l'impasse sur ce grand mystère qu'est le mystère de la médiation et dont je parlais à l'instant. En réalité, où se trouve la liberté hors de la langue ? Est-ce que vous seriez plus vous-même aujourd'hui ? Est-ce que votre pensée serait plus personnelle ? Est-ce que votre esprit critique serait plus développé, plus acéré, plus affiné ? Est-ce que vraiment vous pourriez même penser, tout simplement, si vous n'aviez pas reçu une langue ? Est-ce que nous aurions une pensée sans les mots qui nous ont été transmis ? Je crois que ce qui nous est transmis n'atténue pas notre liberté critique. Au contraire, c'est dans ce qui nous est transmis que toute liberté critique peut naître. Car de fait, nous le savons bien, la langue que nous avons reçue ne nous a pas condamnés à répéter toujours la même chose que ceux qui nous l'ont transmise. Au contraire, la langue que nous avons reçue nous a servi à produire une pensée qui est véritablement nouvelle. Et à la mesure même que nous avons reçu une langue riche, à la mesure que nous avons reçu une langue dont le vocabulaire est étendu, une langue féconde dans son ampleur, eh bien nous avons reçu les moyens d'une liberté plus grande et d'une liberté plus affinée, d'une liberté plus ajustée, d'une parole plus maîtrisée, d'une parole qui soit vraiment la nôtre. De fait, c'est dans ce qui nous est transmis que se construit toute liberté critique. Et je pense que n'importe quel parent fait cette expérience vertigineuse qu'en apprenant à un enfant à parler, il lui donne les moyens non pas de répéter toujours les mêmes pensées et les mêmes convictions que lui, mais au contraire de se construire sa propre pensée. Et voilà qui est vertigineux. Quand l'adolescent rebelle se révolte contre ses parents et leur envoie à la figure qu'il ne veut plus de leur enseignement, il le fait encore avec les mots que ses parents lui ont transmis. Et quand même nous critiquons ce que nous avons reçu, nous le faisons encore par le moyen de ce que nous avons reçu. Par voie de conséquence, il n'y a pas de liberté critique en dehors de l'acte de la transmission. Parce que la liberté critique n'est pas donnée, elle n'est pas immédiate, ce n'est pas vrai, ce n'est tout simplement pas vrai. Revenons à cette objection que l'on fait couramment aux professeurs de philosophie. Vous devriez laisser vos élèves exprimer leur opinion plutôt que de leur faire lire des auteurs. En fait, en réalité, là encore, cette objection est infondée. Elle fait l'impasse sur ce mystère qui est au cœur de l'expérience éducative, que nous avons besoin justement de l'autorité des grands auteurs pour faire grandir notre liberté. Réunissez des élèves de terminale, mettez-les autour d'une table et demandez-leur leur avis. En fait, en réalité, ils ne vous donneront pas leur avis. Demandez-leur leur pensée, ils ne vous donneront pas leur pensée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne pensent pas encore vraiment. En tous les cas, ils ne pensent pas encore autant que s'ils avaient fait l'expérience de la rencontre avec d'autres, s'ils avaient fait l'expérience de la rencontre avec l'altérité, s'ils avaient fait l'expérience de la rencontre avec l'autorité de ces textes qui nous précèdent. Mettez des élèves de terminale dans une classe et demandez-leur de parler ensemble, vous aurez devant vous le plus grand et le plus éloquent spectacle de l'opinion commune qui s'exprime à travers eux. Ils ne parlent pas, c'est l'opinion commune qui parle à travers eux, c'est ce qu'ils ont entendu chez eux qui parle à travers eux, c'est ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux qui parle à travers eux, ils ne parlent pas encore. En revanche, l'expérience fabuleuse que vous faites comme enseignant, la plus belle de toutes les expériences, c'est de voir un élève qui, après un cours de philosophie, utilise les auteurs qu'il a rencontrés pour penser parfois contre eux et même parfois contre vous, contre ce que vous aviez essayé de transmettre, contre la position que vous aviez essayé d'expliquer. Et dans ces moments-là, vous voyez l'éclosion d'une liberté nouvelle. Lire des grands auteurs ne nous formate pas, ça n'est pas vrai. L'autorité des auteurs n'est pas contraire à notre liberté. Et vous en avez tous fait l'expérience. Lire Nietzsche ne vous condamne pas à devenir athée, et lire Pascal ne vous fera pas nécessairement devenir mystique. Mais en lisant Nietzsche et Pascal, vous avez plus de chances de construire une pensée plus personnelle et plus libre sur la question de la foi, sur la question de la religion, sur la question de l'existence de Dieu, que si vous ne les aviez jamais rencontrés. L'autorité est ce qui fait grandir la liberté. Et c'est là, comme vous le savez très bien, son étymologie première, auctoritas, qui vient du latin augere, qui veut dire faire grandir. Le propre de l'autorité, c'est qu'elle me fait grandir, c'est-à-dire qu'elle fait grandir en moi ce que je suis. On pourrait dire qu'elle m'augmente de moi-même. Elle fait grandir ma propre liberté. Pour le dire autrement, je crois encore une fois qu'il ne saurait pas y avoir de tension, il ne saurait pas y avoir de conflit entre l'exercice de la transmission et la préparation d'une liberté nouvelle. De fait, la liberté n'est pas immédiate. Je suis venu à Lyon, il y a de cela peut-être 2 mois, pour un colloque qui se déroulait à l'Opéra de Lyon sur l'éducation artistique. Et on nous montre une petite vidéo dans ce colloque d'un projet que l'Opéra de Lyon réalise, un projet qui se déroule dans un collège de banlieue, un collège défavorisé. C'est un pianiste de l'opéra qui va avec son piano dans une classe de collège pour montrer l'instrument et faire une petite démonstration. La séquence est tout à fait merveilleuse et très jolie, elle est charmante. Le pianiste vient dans la classe avec son piano, puis les élèves de toute évidence n'ont jamais vu un piano. Alors il leur propose de s'approcher du piano et d'appuyer au hasard sur les touches. C'est la consigne qu'il leur donne. Appuyer au hasard sur les touches improvisées. Les élèves approchent du piano et appuient au hasard sur les touches et ils improvisent. C'est très beau, hein ? De fait, c'est la première rencontre avec l'instrument et c'est un moment merveilleux parce qu'on voit que pour la première fois, ils font l'expérience de ce son qu'ils produisent en appuyant sur un piano. Et le commentaire de la vidéo qui suit immédiatement nous dit « Voilà, pour la première fois de leur vie, ces élèves ont fait une expérience de leur créativité personnelle. » Eh bien, vous voyez, tout le problème est là. Alors moi, je devais intervenir juste après. Alors je fais mon petit topo et je me permets une insiste. Je dis, vous voyez, c'est une très jolie séquence, c'est vraiment une très belle séquence. Et d'ailleurs, peut-être y a-t-il dans cette classe de futurs grands pianistes. Et de fait, tous les grands pianistes ont un jour, pour la première fois de leur vie, appuyé sur les touches d'un piano, tous. Nécessairement, toute expérience du piano commence par une première fois. Et donc nous assistons à une scène très belle et tout à fait nécessaire. Mais ça n'est pas encore une expérience de créativité personnelle. Précisément, qui est vraiment libre ? Qui réussit à faire dans le monde la démonstration d'une liberté nouvelle, d'une capacité de produire une nouveauté telle que, avant lui, nous n'avons jamais entendu quelque chose de semblable ? Eh bien, c'est l'artiste. L'artiste représente l'accomplissement de ce que la liberté humaine peut produire de singulier, de singularité, d'exercice d'une humanité qui se déploie dans cette nouveauté absolue. L'artiste est capable de cette création à tel point qu'on le reconnaît à son style. Il a un style bien à lui et on l'entend à chaque fois qu'on entend un morceau de lui, on le reconnaît à son style, c'est lui, ça lui ressemble, c'est vraiment lui. Pour le dire autrement, un artiste n'est pas quelqu'un qui répète toujours ce qui s'est fait avant lui. Au contraire, il construit quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant lui et que personne d'autre ne refera après lui. Mais précisément, devenir un artiste, conquérir son propre style, ça n'a rien d'immédiat. Et il y a bien de la distance entre appuyer au hasard sur les touches d'un piano et composer une grande œuvre d'art, composer quelque chose qui vous exprime vraiment, faire une expérience de votre créativité personnelle. Et toute cette distance, ça s'appelle l'éducation. Les plus grands artistes de l'histoire ont commencé par faire des gammes. Ils ont eu des professeurs qui leur ont appris ce que c'était que l'instrument, qui leur ont appris ce qu'était la note juste et la note disharmonieuse, qui leur ont appris les règles de l'écriture musicale. Ça ne veut pas dire qu'en jouant ce que d'autres avaient écrit avant eux, ils ont été condamnés à reproduire indéfiniment les produits d'une tradition culturelle. Au contraire, de cette rencontre avec d'autres artistes, de cette rencontre avec une tradition qui les précédait, ils ont fait l'occasion d'une liberté nouvelle. Mais cette liberté, elle ne naît pas de nulle part, elle ne vient pas de rien. Pour le dire autrement, je le crois profondément. Et je pense que c'est même la clé et le cœur de tout acte éducatif, de tout le pari éducatif. Il n'y a pas de contradiction, aucune contradiction, entre la transmission et la liberté de celui qui bénéficie de cette transmission. La seule véritable contradiction naît lorsque nous abandonnons l'idée même qu'une médiation nous soit nécessaire. Nous l'abandonnons, je crois, pour une raison très simple, c'est que cette idée nous humilie. De fait, il faut, pour reconnaître la nécessité de la médiation, commencer par lire dans nos propres histoires le fait qu'aucun d'entre nous ne s'est fait lui-même. Il n'y a pas de self-made man. Toute la liberté que nous avons aujourd'hui, la moindre de nos pensées, de nos intuitions, de nos émotions, le moment le plus intime de notre expression personnelle, nous le devons encore à d'autres que nous. Nous le devons à ceux qui ont mûri pour nous ce langage qui est venu jusqu'à nous et à ceux qui nous l'ont transmis. Nous le devons à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait grandir cette culture dans laquelle s'accomplit aujourd'hui la liberté nouvelle par laquelle nous venons à notre tour enrichir cette culture à notre humble mesure de ce que nous pouvons lui apporter de singulier. De fait, je crois encore une fois que l'acte éducatif commence par cet acte d'humilité. Je suis par ce que j'ai reçu. Je ne suis pas ce que j'ai reçu. Je ne suis pas formaté par ce que j'ai reçu. Je ne suis pas aliéné par la culture qui m'a été transmise. Mais dans la culture qui m'a été transmise, j'ai trouvé l'occasion de ma propre liberté. Voilà quelque chose de merveilleux et de fascinant, que dans le silence de n'importe quelle salle de classe, dans la discrétion de la vie quotidienne de n'importe quelle famille, grandissent petit à petit des libertés nouvelles dont personne ne soupçonne la fécondité qu'elles auront pour demain. Personne ne sait ce qu'un enfant fera de ce que vous lui transmettez. Et n'importe quel éducateur doit reconnaître que justement, et c'est peut-être le deuxième acte d'humilité qu'il doit faire, que ce qu'il transmet au moment où il le transmet ne lui appartient déjà plus. Ça n'est pas nous que nous transmettons. À l'UFM, on nous expliquait sans cesse que si nous avions voulu devenir prof, c'est que nous étions d'anciens bons élèves et que nous avions envie de nous reproduire. La grande idée bourdieusienne de la reproduction. La nécessité du mimétisme qui faisait condamner par Rousseau la volonté de produire des perroquets et des marionnettes qui nous ressemblent pour pouvoir les faire entrer à leur tour, ces enfants qui subissent notre éducation dans le jeu social où ils sont rendus artificieux et artificiels. En réalité, n'importe quel enseignant sait très bien qu'il ne se reproduit pas dans ses élèves, et bien au contraire, qu'à la mesure de l'exigence de ce qu'il leur transmet, il leur donne l'occasion de lui échapper, et d'échapper même d'une certaine façon à l'idée même d'une reproduction mimétique de ce qui nous a été transmis. Je crois qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas d'humanité, pour le dire autrement, que nous ne pouvons pas rejoindre notre nature sans l'expérience de la culture, et je crois pour le dire autrement que c'est ainsi qu'on peut restaurer l'idée que l'école va quelque part. Et pour répondre à la question qui était posée, je dirais que l'école est essentiellement sens, sens au sens d'orientation, sens au sens de direction, sens au sens de médiation. L'école est ce lieu où l'on va vers soi-même, où l'on va vers sa propre liberté. Non pas un endroit pour accumuler des stocks de données, du stock de culture, pour se constituer un bagage culturel qui viendrait s'ajouter à notre personnalité déjà formée, mais un lieu qui est en quelque sorte à lui seul un chemin secret, un chemin silencieux, mais un chemin essentiel et non pas accessoire, parce que sans lui, il n'y a pas de liberté. En voulant libérer nos élèves, en voulant les délivrer de l'influence de la transmission, nous ne les avons pas rendus plus libres. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Ces élèves que nous avons en face de nous et qui sont les déshérités de notre temps, ils sont d'abord déshérités d'eux-mêmes. Évidemment, l'élève est au centre du système scolaire. Évidemment, il en est le but et la finalité. Le savoir n'est rien d'autre que le chemin par lequel les enfants peuvent trouver l'occasion d'avancer vers ce qu'ils sont, d'avancer vers leur propre personnalité. Mais en privant les élèves de ce savoir, nous les avons privés d'eux-mêmes. Et en retirant le savoir de nos systèmes scolaires, nous en avons aussi retiré la liberté des élèves. bien je forme le vœu que cette journée puisse contribuer à ce que nous désirons tous, faire en sorte que notre école redevienne pour chaque enfant l'occasion de trouver les moyens de cultiver sa propre liberté. Voilà, je crois, ce qui peut redonner à l'école un lieu où aller, ce qui peut redonner l'occasion à l'école d'être un lieu où l'on va quelque part, c'est-à-dire un lieu où l'on va vers soi-même. Voilà la plus grande destination de l'existence et sans doute celle qui s'appelle le bonheur. Merci infiniment de votre attention.